France Culture.
C'est une rue, c'est une bourse, c'est une banque, que dis-je, c'est la finance à elle toute seule telle qu'elle se conçoit à New York. Bref, c'est Wall Street, le lieu hautement symbolique dans lequel nous nous rendons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, car cette bourse semble avoir une existence propre, elle se crispe, elle rebondit et surtout elle se porte bien, alors qu'aujourd'hui même s'ouvre la saison des résultats du quatrième trimestre 2024 pour plusieurs grandes banques dont JP Morgan et Wells Fargo. Déjà, on le sait, le marché est aussi le S&P 500, soit l'indice des 500 plus grandes sociétés cotées entre autres au New York Stock Exchange, a augmenté de 60% en deux ans. À quelques jours de l'investiture du président nouvellement élu Donald Trump, qui aura lieu le 20 janvier, remonter l'histoire de Wall Street, c'est aussi faire celle des liens entre monde politique et financier, où chacun entend contrôler et imposer ses lois à l'autre, tout en marchant souvent du même côté du trottoir. Des pères fondateurs aux élections de novembre dernier, du crash de 1929 à la dérégulation des années 80, le monde de la finance s'incarne à Wall Street et nous raconte la puissance du capitalisme américain dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Élise Leu.
Wall Street, une des rues les plus puissantes du monde, celle des banques. C'est là que se font et se défont les fortunes. C'est là que parfois change la face du monde. Le soleil en plein midi n'arrive pas à y pénétrer tant les bâtisses sont hautes. C'est une rue froide. Wall Street ne communique pas de chaleur. Wall Street est hautaine. George Washington y veille. Ici, un homme donne des tuyaux de bourse. On se rassemble et on écoute, on ne sait jamais.
Hugo Fralin, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire et membre du Centre d'études nord-américaines à l'EHESS. Vous préparez actuellement une thèse sur l'histoire politique de la finance américaine intitulée « Lehman Brothers et les mondes financiers new-yorkais, une histoire sociale des élites bancaires 1918-2008 ». Et puis vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Montpellier. Et d'ailleurs, merci à Magali Marien qui assure ce duplex. Hugo Fralin, votre objet de thèse va nous aider à mieux comprendre les multiples facettes de Wall Street. On associe bien volontiers cette célèbre rue située au sud de Manhattan à la bourse de New York. Mais il faut aussi se rendre compte que Wall Street désigne par extension tout un réseau bancaire et financier. Donc quand on s'intéresse au monde financier new-yorkais, on s'intéresse nécessairement à Wall Street. Et ce, dans toutes les acceptions du mot, Hugo Fralin, c'est ça dont vous vous êtes rendu compte dans votre thèse?
Oui, bien entendu, puisque vous l'avez rappelé à l'origine, Wall Street, c'est d'abord une rue, bien entendu, qui remonte à l'époque coloniale. Et aujourd'hui, le terme de Wall Street en est venu à désigner par métonymie la bourse de New York, c'est-à-dire le stock exchange où s'échangent des titres financiers de manière quotidienne. Alors aujourd'hui, en plus de manière digitalisée depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais par extension, et d'ailleurs il y a des conflits au sein de ce monde, par extension, au-delà de la bourse, Wall Street désigne le monde financier du sud de Manhattan, où l'on va trouver les quartiers généraux et les centres des grandes banques d'investissement, des grandes banques d'affaires, comme vous l'avez précisé, JP Morgan ou Goldman Sachs. Et on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler, mais les relations justement entre la bourse de New York et les banques d'investissement ne sont pas toujours consensuelles ni au beau fixe, puisque elles peuvent être tout à fait conflictuelles, on l'a vu dans l'histoire.
Cela dit, Hugo Fralin, si on reste sur des questions purement géographiques, mais toujours en lien avec votre thèse en cours, vous avez étudié plus spécifiquement Lehman Brothers, hein, bon, dont on n'entend plus tellement parler depuis sa faillite dans le sillage de la crise de 2008, le siège social, si je ne me trompe pas, mais là vous êtes tout à fait libre de me corriger, le siège social de Lehman Brothers se trouvait donc avant sa faillite dans le Lehman Brothers Center, devenu Barclays Building dans le Rockefeller Center. Je crois que c'est un peu éloigné, c'est un peu plus au nord de Manhattan. Est-ce que c'est une exception pour une institution financière que de ne pas être située dans ce fameux Financial District, c'est-à-dire le quartier autour de Wall Street, ou est-ce que finalement, faute de place, ce quartier-là de Wall Street a dû s'étendre progressivement ?
Alors la réponse est la deuxième en fait. Non, ce n'est pas une exception. Vous avez bien mentionné ce nouveau building qui a été en fait investi par Lehman dans les années 1990. Mais on a d'autres exemples. Hein. Pour le coup, le siège de JP Morgan se situe aussi dans le quartier de Midtown. Donc en fait, on est juste au sud de Central Park. On est à quelques kilomètres du Financial District. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu au cours de l'histoire une migration vers le nord des grands quartiers généraux des banques. Donc l'exemple de Lehman le montre, l'exemple de JP Morgan aussi, mais ce ne sont pas les seuls, étant donné que on trouve un autre exemple qui est celui de Bank of America, qu'on va trouver sur la 42e rue par exemple aujourd'hui, ou encore de Wells Fargo qui a son centre à San Francisco. Donc d'une communauté financière qui était vraiment à la pointe sud de Manhattan à l'origine, cette communauté s'est ensuite diversifiée vers le nord, ou en tout cas on assiste à une migration vers le nord, mais toujours en tout cas dans le borough de Manhattan.
Oui, ce qui nous permet de préciser qu'on va certes parler de cette fameuse rue, Wall Street, mais que finalement par métonymie c'est toute une communauté, tout un ensemble de liens sociaux qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est d'ailleurs aussi ce que vous faites dans votre thèse. Vous dites que vous avez une approche prosopographique, c'est-à-dire qui cherche à étudier finalement l'évolution de ces liens et de faire ce tableau social entre tous ces acteurs et ce qui est in fine une élite. Hugo Fralin, on voit là pour les aspects géographiques. Si on rentre un petit peu dans le détail, on va dire plus technique, plus financier, plus économique, on a ce quartier et on a ces institutions. Et puis, il y a cette bourse dans son acception, vous l'avez dit, dématérialisée parfois. Or, cette bourse de New York, c'est la plus grande du monde, avec une capitalisation boursière de plus de 30 000 dollars en septembre 2024. Très concrètement, Hugo Fralin, qu'est-ce qu'on échange au New York Stock Exchange ?
Eh bien, on échange tout simplement des titres financiers qui peuvent avoir une valeur qui va de quelques millions jusqu'à plusieurs centaines de millions, entre des grands investisseurs internationaux. C'est-à-dire que sur le plan purement matériel, purement géographique, le New York Stock Exchange, il est au sud de Manhattan, mais au sein de cette bourse, c'est une entreprise privée, au sein de cette bourse peuvent être cotées des entreprises et des multinationales à travers le monde, américaines ou pas d'ailleurs. Et cela permet justement à ces entreprises, les banques n'étant qu'un exemple parmi de nombreuses d'entre elles, cela permet à ces entreprises de s'échanger ces titres. Je vais prendre un exemple très simple. Dans les années 2000, on pouvait tout à fait vendre des titres hypothécaires ou des titres immobiliers qui valaient par exemple 100 millions de dollars à des fonds de pension publics, par exemple le fonds de pension des enseignants du Mississippi ou des enseignants de l'Illinois qui pouvaient tout à fait acheter à travers leur réseau bancaire ces titres à travers la bourse de Wall Street. C'est un lieu qui est incarné géographiquement à New York, mais qui est en fait un canal, si vous voulez, un canal du capital qui permet de relier plusieurs lieux en fait à travers le monde.
Et on l'a vu, ces canaux sont certes, on va dire, financiers et purement économiques, ils sont aussi sociaux, ils sont aussi politiques, et ces liens entre politique et finance se sont incarnés le 12 décembre dernier lorsque Donald Trump a sonné la cloche d'ouverture du New York Stock Exchange.
Merci, merci beaucoup. C'est un honneur, un immense honneur. J'ai amené certains de nos compatriotes avec nous. Ils vont faire un excellent travail pour vous pendant les 4 prochaines années. À Jeffrey Sprecher et à tous les gens de la Bourse de New York, vous savez à quel point j'apprécie cet endroit. Il y a de nombreuses années, j'ai acheté un immeuble de l'autre côté de la rue. Au départ, je n'allais pas l'acheter, puis je me suis dit, c'est juste à côté de la Bourse de New York, je vais l'acheter. Le 40 rue Wall Street a été un grand succès. Mais vous, la Bourse de New York, avait aussi beaucoup de succès. C'est un groupe de personnes incroyables, et Jeff, vous avez fait un travail incroyable. Scott Bessent m'a dit qu'on avait récupéré 3 000 milliards de dollars depuis le jour de l'élection. Je lui ai dit, ok, c'est bien, mais qu'en était-il avant le jour de l'élection ? Il m'a répondu, nous avons ramassé de l'argent là-bas parce qu'ils pensaient que vous alliez gagner. J'ai dit, j'aime bien ce type, il sera mon secrétaire au trésor.
Voilà, c'était Donald Trump le 12 décembre dernier, interprété ici par Raphaël Laloum, et je l'en remercie. Ce qu'il faut savoir, c'est que au 40, effectivement, de Wall Street se trouve, en effet, le Trump Building, à ne pas confondre avec la Trump Tower, qui, elle, est dans la 5e avenue. C'est à 1h40 de marche à peu près, mais ce Trump Building est un célèbre gratte-ciel de 71 étages acheté par Donald Trump en 1995. Hugo Fralin, une question simple mais très vaste. Que vient faire un président à la bourse de New York? De quoi cette cloche sonnée est-elle le symbole?
Alors en fait, pour le contexte immédiat, Donald Trump vient sonner la cloche d'ouverture de la bourse. Donc en fait, là, c'est vraiment lié aux horaires d'ouverture. Si vous voulez, la bourse ouvre le matin et ferme en fin d'après-midi. Bon. Et il est venu sonner la cloche du New York Stock Exchange à la suite d'une invitation de la bourse qui lui a offert en fait ce privilège, étant donné qu'il vient d'être nommé par le Time Magazine la personnalité de l'année. Bon. À partir de là, il a accepté l'invitation, pardon, d'autant plus que, on le sait, Trump accorde une importance fondamentale aux signaux boursiers comme étant, selon lui, l'un des signes du caractère positif ou négatif, ou en tout cas du caractère en forme de l'économie américaine. Bon, donc il a sauté sur l'occasion, bien entendu. Il a été, comme on l'a entendu dans l'extrait, exalté et reçu en héros, finalement, par les membres de cette communauté financière. Et c'est vrai que c'est un événement assez exceptionnel, puisque ce n'est que la deuxième fois que ça se produit dans l'histoire américaine. La première fois, c'était Ronald Reagan en 1985, lors de sa deuxième élection.
Donc ça veut dire, Hugo Fralin, que Donald Trump ne l'avait pas fait lors de sa précédente élection en 2020. C'était une première pour lui aussi.
Oui, c'est une première pour Donald Trump, et il se situe en ce sens-là dans les pas de Ronald Reagan il y a maintenant une quarantaine d'années, oui.
Et vous avez dit que Donald Trump accordait une importance fondamentale aux signaux boursiers. Or, ces signaux, ils ont quand même eu leur importance, il est vrai, dans cette élection et puis dans l'annonce des résultats, ou même dès lors qu'on avait quelques indices sur le débouché de ces résultats. Et il faut le dire, le Dow Jones et le S&P, qui sont des indices échangés au New York Stock Exchange, entre autres, ce ne sont pas les seuls, mais aussi le Nasdaq, où s'échangent essentiellement des valeurs technologiques, mais qui, lui, est situé à Times Square. Tous ces indices-là se sont envolés dès le 6 novembre. La bourse ouvrait en très forte hausse. Pourquoi son arrivée au pouvoir, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, plaît autant au milieu financier, Hugo Fralin?
Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé en 2016, donc lors de sa première élection, mais on l'a aussi observé lors de l'élection de Joe Biden, donc si j'ose dire, c'est bipartisan de ce point de vue-là. Et pour le cas de 2024, alors cette envolée, elle est essentiellement due à la confiance que les investisseurs expriment dans les possibilités de croissance de l'économie américaine. Et ce qui plaît, en l'occurrence, dans l'élection de Trump, là, dans le contexte immédiat, c'est les promesses qu'il a faites de revenir sur certains impôts, donc les fameuses tax cuts que proposait le candidat pendant sa campagne, et de revenir sur certaines régulations bancaires de l'ère Obama, je pense à la loi Dodd-Frank, que Trump se proposait de minimiser, ou en tout cas de démanteler en partie. Donc si vous voulez, cette possibilité de réduire les normes, de réduire la régulation, comme on a pu le voir en Argentine avec Milei par exemple, a suscité des espoirs et en tout cas des perspectives de profit chez les investisseurs du Stock Exchange. D'où l'envolée des cours.
Mais ce qui est intéressant aussi, et puis vous l'avez un peu mentionné, Hugo Fralin, c'est que, alors certes, il y a cet enthousiasme très lié aux résultats, puis très lié à des promesses de campagne. Il reste à voir si elles se concrétiseront ou non, et notamment en termes de fiscalité pour les entreprises. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit, les milieux financiers ont soutenu aussi Joe Biden, au moins pendant la campagne de 2020. Il avait reçu 74 millions de dollars à l'époque de contributions d'institutions financières ou de personnalités de Wall Street, alors que Trump, lui, n'avait levé qu'un peu plus de 18 millions de dollars pour les élections qui nous occupent là de 2024. Kamala Harris avait été aussi soutenue par des géants de la finance en termes de financement, on va dire, de la campagne. Comment on explique ce revirement, Hugo Fralin ? Est-ce que finalement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de choix politique caractérisé dans les milieux financiers ?
Alors c'est une histoire complexe qui mériterait beaucoup de détails, mais pour le faire le plus simple possible, déjà une chose qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement lors de ces trois cycles présidentiels 2016, 2020 et 2024, les démocrates sont systématiquement parvenus à lever beaucoup plus de fonds, alors Wall Street et ailleurs hein, bien entendu, que leurs rivaux républicains. Par exemple, sur la dernière élection entre Trump et Kamala Harris, on est sur un ratio de 3 à 1 en faveur de Kamala Harris. Bon. La question que l'on se pose, c'est pourquoi finalement financer les deux partis ? Alors, ça remonte à loin, ça remonte au moins aux années 70-80, des années qui ont vu les milieux financiers de Wall Street profondément évoluer politiquement, avec des financements de plus en plus forts et en tout cas bipartisans vers le Parti démocrate. Puisque, à partir des années 80, le Parti démocrate revient dans notamment son idéologie, dans les politiques qu'il propose, revient un petit peu sur l'héritage du New Deal. Et ce revirement-là se concrétise surtout à partir des années 90 sous les deux mandats de Bill Clinton, qui a été l'un des dérégulateurs principaux de l'économie. Il y a, si vous voulez, une continuité dans la dérégulation financière entre Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush et jusqu'à au moins Obama, ce qui explique le fait que les grandes institutions financières de Wall Street aient en tout cas souhaité et n'ait pas vu de problème à financer les deux parties, grosso modo.
Hugo Fralin, une question ouverte, mais je m'adresse aussi à l'historien que vous êtes. Est-ce que se mettre dans la poche, entre plein de guillemets, les milieux financiers, faire de Wall Street un allié est un enjeu essentiel pour les candidats ? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à travers cette histoire relativement longue, on va dire, des élections américaines, ça a toujours été un enjeu et les candidats ont conscience qu'ils ont besoin de cet appui vis-à-vis du monde de la finance ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est, aggravé, mais en tout cas qui s'est intensifié au fil des années.
Alors oui, ça a toujours été un enjeu, bien entendu. On sait très bien que pour exercer un mandat électoral et a fortiori un mandat puissant, donc de président ou de sénateur ou de représentant, il faut trouver des fonds. Pour ne prendre qu'un exemple, la campagne de 2016 a coûté 7 milliards de dollars. Et j'entends ici campagne présidentielle plus toutes les campagnes des États, donc sénateurs et représentants. Aujourd'hui, on a atteint le chiffre, là, les derniers qui nous sont parvenus, est de 16 milliards. Ce qui fait que effectivement il y a des charges électorales qui requièrent des levées de fonds absolument considérables. Pour ne prendre qu'un exemple, l'un des États clés qui a longtemps été un swing state qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est l'Ohio. Et il y a eu une belle enquête du New York Times là-dessus qui estimait que le coût d'un poste, d'une charge de sénateur de l'Ohio dans les dernières élections nécessitait au moins la levée de 300 millions de dollars. Donc forcément, là, on a affaire à des nécessités financières qui imposent, entre guillemets, aux partis politiques de s'adresser à des grandes entreprises, des syndicats pour trouver de l'argent.
Ce qu'on comprend, c'est qu'on a besoin d'une forme de soutien de ces milieux financiers pour des raisons très matérielles. Voilà, tout simplement, financer des campagnes qui coûtent de plus en plus cher, c'est ce que vous nous dites, Hugo Fralin. Mais pour bien comprendre pourquoi les milieux financiers et les milieux politiques sont à ce point intriqués, et puis ce que chacun attend de l'autre, au-delà des simples fonds, il faut revenir sur cette histoire longue de Wall Street, sur la mise en place de cette bourse et sa montée en puissance en tant que place financière. Hugo Fralin, il faut rappeler que c'est à New York donc que se rencontrent marchands et négociants dès le XVIIe siècle. Et déjà à l'époque, des titres financiers s'échangent. Comment s'organisent ces échanges très concrètement ?
Eh bien là, je pense que pour le coup, il faut revenir sur l'origine même de la ville de New York. Mmh. C'est une ville qui est fondée en 1624 sous le nom de la Nouvelle-Amsterdam, puisqu'elle est liée aux Pays-Bas. Et c'est en l'occurrence un poste de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Un poste qui a été choisi, un comptoir en fait finalement commercial, qui a été choisi en raison de ses spécificités géographiques. New York, rappelons-le, c'est une immense péninsule, la péninsule de Manhattan, qui est entourée de deux grands fleuves, l'Hudson à l'ouest et l'East River à l'est. C'est l'une des plus grandes baies d'Amérique du Nord, avec la baie du Chesapeake et du Delaware. Et ce lieu géographique a été choisi justement pour les connexions qu'il permettait avec le reste du continent. Donc les Néerlandais se sont installés là-bas en 1623-1624, ils ont fondé à Nouvelle-Amsterdam. Ça devient New York 40 ans plus tard, en 1664. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'époque, donc avant l'indépendance américaine, on ne parle pas de Wall Street en tant que telle, mais ce que l'on a, vous l'avez rappelé, ce sont des communautés de marchands, des communautés de négociants, qui sont souvent néerlandais ou britanniques, et qui possèdent précisément le savoir-faire financier, qui possèdent les relations sociales, les connexions pour attirer le capital européen. On ne peut pas comprendre, si vous voulez, l'origine de Wall Street si on ne réinsère pas cette communauté-là dans l'économie atlantique du XVIIe et du XVIIIe et dans les empires coloniaux de l'époque moderne. Donc en fait, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on y échange ? On y échange déjà des titres financiers, mais ces titres restent liés à ce qu'on appelle en anglais des commodities, c'est-à-dire des produits matériels concrets. Donc à l'époque, hein, on est au XVIIe, XVIIIe.
Donc a priori, plutôt des matières premières.
Voilà, oui. Plutôt des fourrures, du sucre, du café, du thé et bien entendu des esclaves.
Vous l'avez dit, il y a une forme de place d'échange mais qui n'est pas formalisée en tant que telle. On est d'accord, Hugo Fralin, on ne peut pas parler de bourse à cette époque-là. Ce sont des échanges, alors peut-être pas informels, mais qui se font plutôt de gré à gré.
Oui, exactement. Les seuls éléments qui peuvent être éventuellement, et encore c'est un anachronisme qualifié de bourse, c'est ce qu'on appellerait dans la New York de l'époque les coffee houses. Donc en fait, ces maisons coloniales où des grands négociants du café vont s'échanger des quantités spécifiques de café, par exemple, à revendre en Angleterre ou en France à la même époque.
Vous avez dit, Hugo Fralin, qu'il s'agissait avant tout pour ces négociants, pour ces marchands, d'attirer les capitaux du vieux continent, de l'Europe. Pourquoi est-ce important ? Et là, c'est important de le dire, on se situe avant la guerre d'indépendance, parce qu'on va voir que tout change à partir de ce moment-là. Mais pourquoi est-ce important, dans un premier temps, d'attirer ces capitaux ?
Pour la raison simple que l'Amérique du Nord et ce qui deviendra plus tard les États-Unis est encore très peu peuplé à l'époque, et que le capital économique, il est concentré dans le vieux monde. Et il le restera d'ailleurs jusqu'au moins en 1914. Ce qui fait que ces marchands, lorsqu'ils souhaitent développer leurs affaires sur le continent américain, avec les perspectives de croissance que l'on connaît, ils ont nécessairement besoin de faire venir ces capitaux qui viennent de Londres en leur promettant des retours sur investissement importants, avec bien évidemment l'idée que l'Amérique constitue un espace de profit considérable, et ce, dès le XVIIe. Donc si vous voulez, les marchands, les négociants qu'on va avoir à New York au XVIIe et au XVIIIe vont être en contact avec des institutions comme la Lloyd's, par exemple, à Londres, une grande compagnie d'assurance. Ils vont être en contact avec les mondes financiers parisiens. Ils vont être également en contact avec des banques comme la Barings, plus tard, par exemple, pour attirer ces capitaux.
Et de fait, l'heure arrive effectivement de l'indépendance. Or, cette indépendance, elle doit se conquérir, ce qui donne lieu à une guerre, littéralement, des colonies donc situées sur ce qui est actuellement les États-Unis, une guerre qui les oppose à la Grande-Bretagne. Or, comme toute guerre, il faut la financer. Et là, les choses vont prendre une autre tournure. Hugo Fralin, la nature même de ce qui est échangé sur ses prémices, on va dire, de place financière va changer, et ça prend une dimension bien plus, on va dire, structurelle. Désormais, ce ne sont plus uniquement ce que vous disiez, finalement, la valeur de la matière première très liée à cette économie coloniale qui compte. Ces marchands, ces négociants vont émettre des obligations du Trésor. Alors, pour nous, en 2025, ça peut paraître surprenant, finalement, que ce soit des individus qui se mettent à se saisir, on va dire, de ce produit-là qui devrait être régulé au niveau étatique. Il y a une forme de peut-être de paradoxe qu'il faut nous expliquer.
Et oui, vous avez tout à fait raison. Alors, on peut l'expliquer tout simplement par le fait qu'il n'y a pas de banque centrale à l'époque. De même que quand les futurs États-Unis entrent en guerre d'indépendance, il n'y a pas encore tout à fait d'État fédéral non plus. Ce qui fait que pour pouvoir financer la guerre et ensuite pour pouvoir financer le crédit de la nouvelle nation américaine, la solution qui existe est le recours effectivement à cette communauté de négociants, puisque ce sont eux qui ont les contacts richissimes dans la vieille Europe. Et alors là, en l'occurrence, à qui on va vendre essentiellement ces titres? Évidemment au grand rival du Royaume-Uni de l'époque, à la France notamment.
Oui, bien sûr, rien n'est gratuit à cette époque-là.
France Culture.
And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton.
Entendez-vous l'écho?
And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you wait. In New York, you can be a new man. Just you wait. New York, you can just you wait.
Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor, entré dans la légende depuis, est devenu aussi le sujet d'une comédie musicale à succès en 2017, dont on entendait à l'instant un extrait. C'est une figure qu'il faut ici évoquer, Hugo Fralin, car c'est lui finalement qui encourage ces émissions du Bon du Trésor pour financer la guerre d'indépendance et puis après, vous l'avez dit, la reconstruction. Là, c'est un point très important également, ce mode de financement qui semble s'être imposé un peu de lui-même. En réalité, ce n'est pas le cas, c'est un vrai sujet de débat à l'époque.
Oui, ça me paraît absolument essentiel de le rappeler, puisque la guerre d'indépendance par rapport à Wall Street, enfin ce qui deviendra Wall Street, constitue ce que j'appellerais vraiment la matrice d'une double vision de la finance. Au sens où, vous l'avez rappelé, on met souvent les pères fondateurs des États-Unis dans le même ensemble, comme un ensemble finalement de héros de la nation, bon, alors qu'en réalité, ils n'ont pas du tout la même conception de ce que doit être la nouvelle nation sur plein de points. Et en l'occurrence, c'est le cas sur la finance, puisque vous avez d'un côté Alexander Hamilton qui est un fédéraliste, il est en l'occurrence partisan d'un État fort, et surtout il souhaite utiliser cette communauté de négociants pour financer la guerre d'indépendance puis la nation, pour émettre les titres du Congrès continental puis du nouvel État. Bon, il deviendra à ce titre, vous l'avez rappelé, le premier secrétaire au Trésor en 1789. Et par la suite, cette position d'Hamilton restera très influente dans la politique américaine pour au moins deux siècles, comme étant, si vous voulez, l'incarnation d'un développementalisme national. Les historiens parlent d'ailleurs de Hamiltonian nationalism, donc le nationalisme hamiltonien, c'est-à-dire finalement utiliser la finance et puis vendre des titres de l'État, ou en tout cas financer le crédit de la nation pour développer l'économie réelle. Bon. Or, cette vision d'Hamilton, qui va prévaloir, est férocement contestée par d'autres pères fondateurs, et en particulier par Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, c'est un républicain, et face à Hamilton, il exprime une méfiance extrême du pouvoir de l'argent. Il émet surtout la crainte que l'émission de titres pour financer la guerre puis l'État n'en vienne à finalement assurer une emprise du pouvoir privé sur la future nation. Et Jefferson craint surtout de recréer dans le nouveau monde les inégalités de l'ancien. Il dit par exemple qu'Hamilton est un contre-révolutionnaire de ce point de vue, et il utilise l'expression de « moneyed aristocracy », donc d'aristocratie de l'argent, et il craint que les États-Unis ne redeviennent finalement, ou en tout cas ne deviennent la France ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire des monarchies criblées de dettes et soumises à une aristocratie privée en un sens.
Hugo Fralin, dans quelle mesure les faits lui donnent raison à Jefferson? Dans quelle mesure cette élite marchande de négociants qu'on évoquait finit effectivement par occuper une certaine forme de pouvoir aux États-Unis à l'époque?
En un sens, les faits lui donnent raison sur le plan de l'histoire des inégalités. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien étudié, démontré depuis maintenant une trentaine d'années, de voir que finalement, dès les origines de la nation américaine, on a affaire à des niveaux d'inégalité très importants, qui n'atteignent pas non plus les niveaux extrêmes de la France et du Royaume-Uni de l'époque, mais qui restent en fait déjà majeurs. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que la future communauté financière de Wall Street va jouer un rôle important dès le début du 19e siècle, puis jusqu'à la guerre de sécession dans le financement des campagnes électorales. Donc en fait, oui, il y a une forme de confirmation de ce point de vue. Mais si vous voulez, c'est absolument important de rappeler cela, dans le sens où la guerre d'indépendance, elle met en jeu, d'un côté, une vision, même si c'est anachronique, de Wall Street, comme une force bénéfique du point de vue d'Hamilton, c'est-à-dire une force au service de la nation et de l'économie réelle, du développementalisme. Et de l'autre côté, Jefferson, le monde de la finance et de l'argent comme une force rétrograde, une menace sur la République, avec, bien sûr, les affaires de spéculation. Et en fait, cette division-là, elle est très intéressante parce qu'elle ne recoupe pas tout à fait la droite et la gauche. On va retrouver des membres des deux camps, du côté d'Hamilton comme du côté de Jefferson dans les siècles qui suivent.
Et les positions politiques, effectivement, vont fluctuer aussi en fonction des événements. Hugo Fralin, il y a autre chose qu'il faut nous expliquer qui peut aussi nous étonner, là encore, nous, en 2025. Vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment d'institution à l'époque pour garantir une forme de confiance. Or, tous ces emprunts qui ont été contractés, on se doute que ça va peser un peu nécessairement sur les finances de l'État qui est en train de se créer à la suite de la guerre d'indépendance, un État qui ne dispose pas vraiment de recettes fiscales encore. Dans ce contexte, on a quand même un peu de mal à imaginer qu'on prête bien volontiers aux États-Unis tout neuf. Il y a quand même des acteurs pour se trouver intéressés par ces achats d'obligations.
Alors c'est très délicat au départ, tout simplement parce que la communauté de négociants dont on vient de parler, alors on a parlé de New York, mais rappelons quand même qu'à l'époque, Boston et Philadelphie sont des places financières tout aussi importantes. Il ne faudra attendre la fin du 19e pour que New York s'impose véritablement. Bon, cette communauté négociante, à l'époque de la guerre d'indépendance, elle est au départ divisée, puisqu'elle a elle-même des intérêts dans l'Empire britannique, et dans le commerce, bien entendu, de l'Empire britannique, et que les négociants que l'on évoque sont tous, sauf unis derrière la nouvelle nation, ou en tout cas ce qui va devenir la nouvelle nation. Ce qui fait dire d'ailleurs à Jefferson qu'il se méfie de la possible traîtrise, du possible déloyalisme de ses négociants. Bon, et alors pour répondre malgré tout à votre question, on parvient tout de même à vendre des titres financiers et à financer cette guerre, notamment, on l'a dit, en les vendant auprès de la monarchie française, qui d'ailleurs aggrave sa dette à l'époque. Et derrière, à d'autres pays rivaux du Royaume-Uni de l'époque.
Vous l'avez dit, il ne faudrait pas faire de New York ce qu'elle est aujourd'hui et peut-être à l'époque. Vous avez cité Philadelphie. C'est vrai que la Bank of North America est née en 1781, hein, donc totalement dans ce contexte-là à Philadelphie. C'est en 1784 qu'est créée la Bank of New York. D'ailleurs, Hamilton en est le directeur, il en rédige le statut. Donc tout ça se structure progressivement. Cela dit, c'est en 1792, donc encore une fois dans ce sillage-là, que la Bourse de New York est réellement fondée par l'accord de Bretton Woods au numéro 68 de Wall Street. Donc là, ça y est, on ne sera plus anachronique à partir du moment où on parle de Wall Street. À l'époque, qui signe cet accord et que stipule-t-il, Hugo Fralin ?
Alors, cet accord est signé par plusieurs dizaines de négociants. Donc on est après la guerre d'indépendance, hein, je rappelle qu'elle prend fin en 1785. Bon. Et que, justement, on est dans, finalement, les années qui suivent la guerre et qui donc voient se constituer le nouvel État fédéral. Et cette communauté de négociants, elle souffre dès le départ d'un, comment dirais-je, d'une méfiance de l'opinion publique, voire d'accusations de spéculation. Il y a déjà des procès à cette époque qui ont touché Hamilton lui-même. Bon.
Donc c'est plutôt le point de vue de Jefferson qui
oui, au départ, qui vaut, oui, à l'époque. Il y a une véritable méfiance. Et cet accord est signé dans le but, justement, d'instaurer une respectabilité et un crédit moral du monde de la finance auprès de l'opinion publique. Donc, il stipule justement qu'il y aura une publicité des informations au sein, j'entends, de cette communauté de négociants, qu'ils développeront leurs relations avec les responsables politiques de manière régulière, pour pouvoir justement assurer, comme on l'a dit, leur respectabilité.
Et potentiellement rendre des comptes. Il faut attendre quelques années, oui. En 1817, pour que naisse le New York Stock and Exchange Board, devenu la société du New York Stock Exchange en 1863. Et là, Hugo Fralin, on arrive à une période où là encore, on a besoin de capitaux. C'est le 19e siècle. Les États-Unis ont besoin à la fois d'une institution forte pour structurer les flux de capitaux. Et puis, ces capitaux eux-mêmes, c'est une façon de rentrer pleinement dans l'industrialisation. Et ça se fait aussi grâce à cette institution-là qui est en train de se structurer. Là, on est plutôt du côté de la force bénéfique, potentiellement, en tant qu'argent qui circule pour financer l'industrialisation. Est-ce que c'est cette vision qui finit par l'emporter au XIXe siècle ?
Alors, en tout cas, c'est de cette manière que la communauté financière va se présenter. Oui, ça, tout à fait. C'est-à-dire que dans les grandes biographies ou les grandes hagiographies de la fin du XIXe siècle qui mettent en scène justement les grands barons de l'industrie, voire de la finance, bon, des hommes comme Rockefeller ou des hommes comme Morgan, on va avoir effectivement cette idée que Wall Street, et on reprend l'idée hamiltonienne, cette idée que Wall Street serait une force bénéfique pour le pays, une force justement qui permet le développementalisme, qui permet l'industrialisation dans la mesure où elle attirerait les capitaux de l'ancien monde et permettrait la mise en place des chemins de fer, la mise en place de grands conglomérats de l'acier et autres. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que cette histoire-là, bien entendu, a une part de vérité. Mais elle a longtemps occulté le rôle que jouait l'État, et en particulier l'État fédéral à la fin du XIXe siècle, puisque on a longtemps pensé que cette période était une époque véritablement du marché libre, du free market dérégulé, alors que, par exemple, pour ne prendre que celui-ci, et c'est le plus important, à la fin du XIXe siècle, l'État fédéral joue un rôle absolument central dans la mise en route industrielle des chemins de fer à travers le pays, non seulement en allouant des terres sur lesquelles vont passer les futurs rails, et en plus en subventionnant les entreprises industrielles chargées de les mettre en place. Donc, si vous voulez, Wall Street joue un rôle dans l'attraction des capitaux français et britanniques au XIXe siècle pour l'industrialisation du pays, mais derrière, les liens à l'État fédéral existent déjà et sont très importants.
Mais cela dit, Hugo Fralin, vous l'avez dit vous-même, il n'existe pas encore de banque centrale, la fameuse Fed qui sera créée un peu plus tard en 1913. Que se passe-t-il ? Vers qui se tourner de fait en cas de potentielle panique bancaire ou en cas de problème de façon plus générale ? Ça reste une réalité qu'il n'y a pas d'institution bancaire pour gouverner toutes les autres, on va dire.
Alors là, pour le coup, ça dépend des périodes. Disons qu'au XIXe siècle, vous avez des paniques bancaires où il n'y a pas de banque dominante. Je pense à la panique bancaire de 1837, à la panique bancaire de 1873. Bon. En revanche, à la fin du XIXe siècle, avec l'essor de très grandes entreprises qui exercent des monopoles dans leur propre domaine, par exemple Standard Oil dans le pétrole, par exemple US Steel dans l'acier, ou encore General Electric dans le domaine des biens d'équipement, on retrouve le même phénomène du point de vue de la finance avec une banque dominante qui est la banque Morgan, donc patronnée par le personnage du même nom, J.P. Morgan, qui en vient à la fin du 19e et au début du 20e siècle à faire office de banquier central officieux des États-Unis au sens où c'est l'homme qui a les connexions financières les plus profondes. Je rappelle que la banque Morgan a des bureaux à Londres, à Paris et à Francfort, et qu'il est celui vers lequel on peut se tourner en cas de panique bancaire pour rassurer justement les investisseurs. C'est ce qu'il fait, notamment lors de la grande crise de 1907, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Il n'y a pas de banque centrale à l'époque. Que fait-on ? On se tourne vers J.P. Morgan. Morgan pour qu'il injecte 25 millions de dollars de capitaux dans l'économie afin d'éviter une dépression des prix et des ventes à la bourse.
Et c'est vrai que la panique de 1907 est peut-être un peu passée à la trappe de l'histoire dans le sens où elle a été rattrapée de fait par la crise de 1929. Le 24 octobre 1929, c'est le crash de Wall Street, ce fameux jeudi noir qui voit 13 millions d'actions offertes à la bourse de New York et de fait les cours s'effondrent et cela va laisser des traces durables non seulement dans les vies de la population américaine. Les familles sont endettées, elles sont confrontées aussi à l'immatérialité des responsables de leur malheur. C'est ce que raconte cet extrait des Raisins de la colère de John Ford, sorti en 1940.
Pour dire vrai, Mulet, après ce que la tornade a fait comme ravage, le système de fermage ne peut plus marcher. Ça ne paie même pas les frais, encore moins donne-t-il de profit. Mais un seul homme sur un tracteur peut s'occuper d'une douzaine de ses lotissements. On ne lui paie qu'un salaire et on prend toute la récolte.
Ouais, mais on pourrait pas avoir moins que la part qu'on touche en ce moment. Mais les enfants n'ont même pas assez à manger comme ça. Et ils sont si loqueteux qu'on aurait honte si les gosses des autres n'étaient pas logés à la même enseigne.
J'y suis pour rien, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu des ordres. On m'a dit de vous dire de partir et c'est pour ça que je vous le dis.
Que je parte de ma propre terre?
Pas la peine de m'en vouloir, c'est pas de ma faute.
C'est la faute à qui?
À qui appartient la terre? La société Shawnee des terres arables.
Et qui est la société Shawnee des terres arables?
C'est pas une personne, c'est une société.
Ils ont un directeur, n'est-ce pas? Ils ont quelqu'un qui sait à quoi sert un fusil, n'est-ce pas?
Oh, petit, c'est pas sa faute, c'est la banque qui lui dit ce qu'il doit faire.
Très bien. Où est la banque?
À Tulsa. Mais à quoi bon se retourner contre lui? Il n'est rien que le directeur. Et il a assez d'ennuis déjà à exécuter les ordres venus de l'Est.
Alors sur qui il faut tirer?
Mon vieux, j'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais. Mais je sais pas à qui est la faute.
Eh ben moi, c'est une chose, monsieur, c'est que personne n'arrivera à me chasser de ma terre. Mon grand-père a pris cette terre il y a 70 ans. Mon père y est né. Nous y sommes tous nés. Et plusieurs d'entre nous y ont été tués.
Hugo Fralin, dans quelle mesure finalement cette crise de 1929 est vue comme une prise de conscience de ce capitalisme financier qui a fini par bien se développer quand même dans ces années 30 qui arrivent? Est-ce qu'on prend conscience de ce capitalisme qui est déconnecté des réalités, de ce qui fait réellement la richesse du pays? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme de retour de ce fameux discours de Jefferson qu'on évoquait un peu plus tôt? Est-ce que finalement ça donne raison à tout un ensemble de politiques ou de critiques de la finance?
Alors si vous voulez, pour reprendre cet extrait qui est à la fois merveilleux et tragique, je rappelle quand même ici que l'histoire de la finance peut paraître aride et délicate au premier abord, mais qu'elle ne prend son intérêt que quand on la traduit dans le domaine de la culture. Et là, pour le coup, le cinéma, la littérature ou encore la chanson populaire ont bien illustré ces thèmes. Et ce qu'il faut rappeler par rapport à l'extrait que vous venez de dire, c'est quand même les dévastations sociales de la Grande Dépression. On a affaire à une décennie, on est à 25% de chômage avec une pauvreté de masse. Et cet extrait, il est intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où le personnage qui est évoqué, le personnage de Mules, donc dans Les Raisins de la Colère, est un personnage de petit fermier qui est extrêmement endetté et qui n'a pas eu les moyens de moderniser sa ferme. Bon. Il est donc expulsé par un agent. Et cet agent, c'est l'agent de la compagnie des terres Shawnee, comme c'est précisé. Et il est intéressant cet extrait au sens où il illustre la démultiplication des responsabilités dans le capitalisme moderne.
Du nombre d'intermédiaires, de fait.
Exactement, du nombre d'intermédiaires. Et donc, dans cette vision, en fait, ou en tout cas, dans ce qui peut apparaître comme un capitalisme à visage inhumain, désormais, avec la démultiplication des intermédiaires et surtout l'impossibilité de trouver des responsables de la crise. Et là, ça devient très intéressant au sens où, d'un côté, le premier personnage de Mules dit que la terre lui appartient au sens où il l'a travaillée. Et ça, c'est très important puisque renaît dans les années 30 un courant populiste qui estime que la valeur en économie est d'abord le résultat de la production. Ce qu'on appelle, chez les historiens, l'éthique producériste, producerism, face au monde de la finance qui, dans les années 30, est accusé justement d'être une force parasitaire, une sangsue, hein, on a l'image qui revient très souvent. Et pour reprendre le titre de votre émission, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 30, Wall Street pourrait tout à fait, par les populistes, être qualifié comme un non-lieu de l'économie. Wall Street, c'est le lieu de la finance, mais certainement pas, à cette époque-là, le lieu de l'économie au sens de l'économie réelle, avec des investissements productifs pour les familles, par exemple.
Et donc, a fortiori, un lieu qui ne produit rien et qui ne justifierait pas, en tout cas, la puissance qu'il a finalement accaparée au cours des années. Il y a un autre extrait, vous l'avez dit, l'importance de traduire finalement les enjeux économiques et financiers dans le domaine de la culture. Il y a un autre extrait que je voudrais vous faire entendre, Hugo Fralin, c'est celui du film La Ruée de Frank Capra, dont le titre original, je le rappelle, est American Madness, qui en dit long aussi, qui lui, pour le coup, est sorti en 1932 et qui met en scène Thomas Dickinson, figure de l'honnête banquier qui prête aux clients selon des critères plutôt moraux, on va dire, plus que financiers, ce qui provoque la colère de ses actionnaires. Thomas Dickinson explique alors son raisonnement.
Pourquoi devrais-je renoncer à cette banque au profit de qui que ce soit? Ça fait 25 ans que je travaille sans répit à sa progression et vous espérez que je m'en défasse, messieurs? Vous plaisantez, sans
doute. Vous pourriez réaliser un profit conséquent sur vos valeurs.
Je ne suis pas intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est la banque. Les déposants sont mes amis. Ils s'attendent à ce que je les protège et je m'y emploie, en somme. Dixon, vous devez changer de politique. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Combien de crédits cette banque a-t-elle souscrit ces 25 dernières années? Pas un seul. Où est le problème avec ma politique?
Vous avez eu de la chance.
Les temps ont changé. L'économie est très instable.
Et par conséquent, les banques doivent être prudentes. Et vous êtes plus libéral que jamais.
Oui, et j'irai faire ma tension de continuer. Le problème dans ce pays aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent liquide thésaurisé. Les industries en souffrent. Où est l'argent maintenant? Dans les banques, les coffres, les bas de laine ou enterré dans des boîtes de fer? Je vous le dis, messieurs, il faut remettre l'argent en circulation si nous voulons que ce pays retrouve sa prospérité.
Vous allez le donner à des hommes tels que Jones? Vous lui avez accordé un prêt supplémentaire de 50 000 dollars? Vous trouvez que c'est une brillante opération?
Il ne peut pas payer ses factures. Il ne risque pas de rembourser son crédit.
Excellente observation, Schultz. Analysons ensemble les risques que Jones nous fait courir. Qui est-il? Un homme d'affaires qui a gagné beaucoup d'argent pendant 25 ans. Il y a deux ans, le marché a commencé à s'effondrer. Aujourd'hui, il a besoin de la banque. Si on lui refuse l'argent qu'il demande, il fera faillite et 900 hommes perdront leur travail. Conclusion, chômage en plus. D'autre part, ses créanciers ne seront pas payés. Ils auront des problèmes, ils iront voir les banques qui ne voudront rien entendre. Plus de banqueroute, messieurs. C'est un cercle vicieux, mais le seul endroit qui peut éviter cet enchaînement, c'est ici, à la source. Aider Jones, c'est mettre un terme à cet enchaînement. Quand il est venu me voir, je me suis posé deux questions. La première, est-il honnête? Oui. La seconde, est-il aussi bon en affaires qu'autrefois? Il est encore meilleur. Non seulement il est plus vieux et plus sage, mais ses difficultés lui ont enseigné la prudence. Selon mes estimations, messieurs, Jones est un client sûr. Ainsi que les milliers d'autres Jones à travers le pays. Cette nation est la plus riche de ce monde grâce à leurs efforts. Et la banque a maintenant le devoir de les aider. Disraeli disait la sécurité et la prospérité de la nation.
Disraeli n'a jamais dit une chose pareille.
Eh bien, il aurait dû le dire. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'hier. Mais nous devons nous entendre sur la sécurité et oublier les valeurs instables ou les nantissements. Il s'agit d'avoir du caractère.
Caractère, c'est votre grande idée.
Non, c'est celle d'Alexandre Hamilton. C'était le plus grand esprit financier de ce pays. Ce sont ces mots, caractère et détermination. Vous ne pourrez jamais parier que sur cela. Et c'est ce qui permettra au pays de sortir du marasme.
Alors là, Hugo Fralin, on a un extrait aussi très intéressant puisque émerge cette figure du bon banquier. Dans quelle mesure cette crise de 1929 remet là encore au goût du jour? Et on l'entendait, le débat qui s'était cristallisé autour de la figure d'Hamilton qui est invoquée hein, ici. Et dans quelle mesure, voilà, 1929 est vu plutôt comme une dérive plus que comme finalement le résultat d'un système qui est intrinsèquement malfaisant. Est-ce qu'on se dit tout de même les banques ont un rôle à jouer? Alors peut-être pas dans la forme qu'elles ont fini par prendre dans les années 30, mais ça reste un pilier aussi de la façon dont l'économie américaine peut survivre.
Oui, c'est la manière dont la présente en tout cas Frank Capra dans ce film, qui est l'un des films les plus intéressants hein, qui a été fait à Hollywood sur la finance, dans la mesure où, et d'ailleurs il y a presque un côté assez osé, voire politiquement incorrect dans le fait de proposer ce film en 1932.
Ça veut dire, dans le contexte, c'était ambitieux.
Oui, c'est ça. Il fait pas bon être banquier, si vous voulez, en 1932. Et là, il propose effectivement l'image du bon banquier. Le bon banquier, c'est quoi? C'est celui qui utilise ses capitaux pour de l'investissement productif. Bon. Or, pour rappeler aux auditeurs le scénario, en fait, ce banquier qui est le patron de la banque qu'il a fondée, il est mis en concurrence par 5 membres de son conseil d'administration qui estiment qu'il fait trop de crédit à des familles modestes et qu'il devrait plutôt réserver ses capitaux pour des investissements ailleurs. Or, lui de dire que, à l'inverse, non, au contraire, il faut financer l'économie réelle de manière honnête et avec une publicité des accords et des contrats pour qu'il puisse y avoir un développement du pays. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, puisqu'on est dans les années 30, c'est qu'il y a une immense réflexion intellectuelle dans les sciences sociales, dans le journalisme notamment, sur la place de Wall Street au sein de l'économie. Puisque autour de Franklin Roosevelt, mais aussi dans certaines universités, émerge l'idée que Wall Street, tel qu'il existe en tout cas jusqu'en 1929, et tel qu'il a été présenté par des gens comme JP Morgan, a en fait très mal alloué le capital au service du développement de la nation. On en vient à dire dans une critique économique, voire mathématique, qu'il y a en fait une forme de gâchis de ressources, de gâchis d'argent qui part dans de la spéculation, qui part dans justement des titres financiers improductifs et qu'il faut désormais réallouer le capital dans d'autres secteurs, dans d'autres acteurs sociaux pour qu'il puisse avoir une dimension sociale. Et c'est ça que propose Frank Capra en fait dans ce film, cette figure du banquier honnête qui est au service en fait de la nation.
Et de fait, pour réconcilier peut-être ces deux sphères, la sphère purement financière qui donc est sur le banc des accusés à cette époque-là, dans le sillage de la crise de 1929, et puis l'idée d'un investissement qui serait productif, il y a toute une série de mesures qui vont être mises en place. On pense évidemment au Glass-Steagall Act de juin 1933, mais il y a aussi, et c'est là-dessus, Gaufrelin, que je voulais vous interroger, il y a aussi la Securities and Exchange Commission qui est créée le 6 juin 1934 par le Securities Exchange Act. Et désormais, l'idée, c'est de surveiller les marchés boursiers sur l'ensemble du territoire américain. À cela, il faut ajouter tout de même désormais la présence de la Fed, alors qu'elle existe depuis décembre 1913. Mais tout de même, en somme, dans les années 30, on a les deux piliers, on a le paysage quasiment complet de ce qui constitue la régulation financière à l'américaine.
Oui, tout à fait. Les années 30 et surtout les quatre mandats de Franklin Roosevelt sont l'occasion d'une véritable révolution en termes d'économie politique. Et puisque vous évoquiez la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc c'est l'organisme de régulation des marchés, bon, qui justement va imposer aux banques d'affaires, mais aussi aux sociétés de courtage, de publier leurs informations sur les titres qu'elles possèdent pour justement restaurer la confiance du public et ne pas manipuler les titres financiers en abusant justement de l'information ou en tout cas de l'ignorance des investisseurs.
Hugo Fralin, toute notre émission est consacrée à cette tension entre la finance incarnée par Wall Street, tiraillée entre cette idée d'une force bénéfique au contraire d'une force rétrograde pour l'économie réelle, je mets là des guillemets, et puis de comprendre aussi les liens entre cette place financière et la sphère beaucoup plus politique. On parlait de la Securities and Exchange Commission, elle existe toujours, elle fait toujours partie du paysage aujourd'hui. Or, ces présidents sont des personnages aussi politiques, dans le sens où ils sont nommés par le président qui est alors à la Maison Blanche. Ça reste quand même un bon témoin aussi de la façon dont tout cela s'imbrique aujourd'hui aux États-Unis entre les deux sphères.
Oui, bien entendu, puisque justement la SEC, donc l'organisme de régulation des marchés, a longtemps été bien entendu dénoncée par la communauté bancaire, donc dès les années 30, bien entendu. Mais derrière, à partir des années 1980-1990, c'est un organisme qui a été de plus en plus peuplé par des personnes originaires, d'une part du monde de la finance, et d'autre part qui a vu ses missions être réduites, notamment à partir de l'administration Reagan sur un ensemble de titres financiers, bon, et qui a connu, si vous voulez, l'ensemble des mesures de dérégulation à partir des années 80 et 90, conduisant à affaiblir son rôle au sein de l'économie américaine.
Et cette forme de régulation hein, donc, qui se met en place dans les années 30, qui voit une forme de régulation, cette régulation c'est aussi une forme d'intervention de l'État fédéral. On comprend que politiquement ça n'a pas dû forcément plaire à tout le monde. Des économistes commencent à remettre en cause hein, cette ingérence, on va dire, de l'État et contestent son efficacité. C'est notamment le cas de l'économiste George Stigler dès 1964 hein, qui sera prix Nobel. Et puis on l'a dit, ça dépasse finalement les clivages gauche-droite, démocrate-républicain qu'il y a aux États-Unis, puisque c'est le démocrate hein, Jimmy Carter qui arrive au pouvoir en 77 et qui est très récemment décédé le 29 décembre dernier, qui a commencé à déréguler, alors certes le secteur des transports en premier, mais qui met un premier orteil, on va dire, dans cette forme de dérégulation. Et puis ensuite arrive Ronald Reagan qui entend rompre avec l'héritage du New Deal dans sa campagne menée en 1980. Dans les archives du journal Le Monde, on trouve un article hein, de l'économiste Pierre Julien, daté de novembre 84, qui fait cette analyse que je trouve assez intéressante. Ils disent qu'on appelle là-bas Reaganomics, ce n'est pas une théorie, mais seulement le résultat de 4 ans de lutte intestine et de compromis fragiles entre les deux clans au pouvoir, les néoconservateurs arrivés avec Reagan et la droite classique émanation de Wall Street et des grandes affaires, le big business. Hugo Fralin, quel rapport y a-t-il entre Reagan et les milieux financiers? Est-ce que c'est vraiment Reagan qui leur a donné le libre champ?
En tout cas, Reagan a joué un rôle fondamental, notamment à travers l'aide de son homonyme, Donald Reagan, qui était son chef de cabinet, puis son secrétaire au Trésor et l'ancien patron de Merrill Lynch. Bon. Mais il n'a pas joué un rôle, comment dirais-je, unique, au sens où, vous l'avez bien dit, dans les rapports entre économie et politique, les liens à Wall Street en fait se transforment à partir des années 70. Pour le résumer très simplement, jusqu'aux années 1970-1980, Wall Street est véritablement un bastion des républicains. Il est très rare de trouver des banquiers démocrates, ou en tout cas qui vont financer le Parti démocrate. On a quelques exceptions comme Sidney Weinberg, qui finance Roosevelt, bon. Mais, grosso modo, c'est un allié indéfectible des Républicains. Bon. Et à partir des années 70 et 80, on commence à le voir, et en tout cas, moi, c'est très net dans mes recherches sur Lehman Brothers, le financement des deux partis politiques, donc démocrates comme républicains, au point que, dans les années 90, donc à l'heure du développement de la mondialisation accélérée post-chute du mur de Berlin, une banque, par exemple, comme Lehman Brothers, prête autant aux républicains qu'aux démocrates, et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui, puisque Wall Street reste souvent tiraillée entre les deux partis.
Et ça nous ramène effectivement à aujourd'hui, et ce d'autant plus, et là on boucle la boucle d'une certaine manière, qu'entre-temps est intervenue tout de même la crise de 2008, il faut quand même le mentionner, qui reprend aussi ce débat qu'il y avait en 1929 entre des produits financiers très complexes qui se diversifient et dont on n'a plus vraiment le contrôle et qui ne participent pas vraiment au financement d'une économie réelle. Cette crise de 2008, comme la crise de 1929, a provoqué une très grande souffrance hein, dans la population américaine. Or, justement, toute une série aussi de tentatives de régulation se sont mises en place. Barack Obama a appelé à la réforme de Wall Street. Hugo Fralin, est-ce qu'il y a pourtant véritablement une réforme de l'intérieur à ce moment-là, ou est-ce que ce n'est déjà plus tellement dans l'air du temps en termes de combat à mener?
Alors oui, il y a eu une réforme, mais une réforme aux effets très limités. La réforme de la finance qui a été passée par l'administration Obama, c'est l'acte Dodd-Frank. Bon. Cet acte,
du nom de deux sénateurs.
Exactement, qui visait à réformer Wall Street, a imposé surtout une mesure aux banques que l'on appelle les stress tests. En fait, si vous voulez, régulièrement, et c'est encore le cas aujourd'hui, les grandes banques d'affaires et commerciales américaines sont soumises à des tests, où, en cas de crise, on leur fait passer des tests de crack boursier et de crack bancaire hypothétiques pour voir s'ils seraient en faillite ou en très grande difficulté. S'ils parviennent à passer le test, tout est bon. Et s'ils ne le parviennent pas, alors elles doivent se recapitaliser, augmenter leurs réserves propres. Bon. C'est ce que propose l'acte Dodd-Frank passé par Obama, mais effectivement, c'est très limité puisque, en fait, l'idée est d'empêcher une crise boursière ou une crise économique, mais pas de transformer les structures profondes du système financier. Et par exemple, les titres toxiques qui existaient en 2008 existent toujours aujourd'hui, bon. Mais je dirais qu'il y a aussi d'autres raisons qui font que moindres réformes ont été passées. Par exemple, le fait que Obama avait misé tout son capital politique sur la réforme de la santé au départ, et que, notamment, pour revenir sur Wall Street, il était aussi très difficile d'identifier les responsables. Mmh. Quand les titres financiers passaient d'une main à l'autre trois fois par jour, et qu'il y avait une démultiplication des intermédiaires, cela rendait les choses d'autant plus compliquées au niveau de la justice.
Oui, on parlait en 1929 de la multiplication des intermédiaires, là on était en plein dedans, avec une ampleur bien plus grande.
Et un dernier point d'ailleurs, Obama n'a pas voulu utiliser le département de la justice, donc le DOJ, mm-hmm. avec son patron de la division criminelle, Lanny Brower, pour mener des poursuites judiciaires contre des banquiers, dans la mesure où on a préféré des règlements à l'amiable. Donc en gros, vous payez une amende et on arrête les poursuites. Pour vous donner une idée, après le krach de 1987, alors qu'on était sous l'administration Reagan, je rappelle, il y a eu plus de 1100 poursuites judiciaires contre des responsables de Wall Street et plus de 850 peines de prison. Et post-2008, il n'y en a eu qu'une, du banquier Karim Seragheldin, et aucune autre. Ce qui a donné cette impression d'inachèvement, si vous voulez.
Et de fait, aujourd'hui, la situation est plus que jamais tendue, puisque Trump, candidat puis président lors de son premier mandat, puis à nouveau candidat, puis à nouveau président, s'est clairement positionné en faveur d'une forme de dérégulation. Et il dénonçait, on s'en souvient, la tyrannie silencieuse de l'État nounou. Reste à savoir si Wall Street restera l'endroit où se font et se défont les pouvoirs et leurs relations. Merci beaucoup Hugo Fralin d'avoir assisté à cette émission et d'avoir accepté notre invitation.